Et je vous entends déjà trouver très convenu tous ces discours de remerciement aux Golden Globes, aux Oscars, aux autres grandes cérémonies du cinéma américain. Vous savez, c'est presque devenu un passage obligé hein, quand les acteurs, scénaristes ou producteurs défilent un par un, égrenant le même discours engagé contre Donald Trump et son tout récent décret anti-immigrant. C'est à celui qui aura la meilleure formule, celle qui vous donnera le plus joli frisson, celui qui partagera avec le plus de conviction son indignation dans une surenchère qui relève presque, c'est vrai, de la compulsion de répétition. On peut s'en agacer, on peut le regretter, mais ce qui se dit dans ces grandes messes hollywoodiennes en ce moment, c'est pourtant toute la mémoire et la mythologie du cinéma américain qui se fonde précisément, on l'oublie trop souvent, sur la figure de l'exilé. Depuis L'Émigrant de Chaplin jusqu'au film de James Gray, The Immigrant, en passant par America America d'Elia Kazan et jusqu'au Titanic de James Cameron, il n'est pas besoin de convoquer le poème de la Statue de la Liberté pour entendre que l'histoire de l'Amérique telle qu'elle nous est racontée par le cinéma est bien une histoire d'exil et d'hospitalité, plus encore qu'une histoire de gloire ou de succès. Qui a inventé Hollywood et le cinéma sinon Carl Emmel du studio Universal, Adolf Zukor de la Paramount, William Fox, Louis B. Mayer ou encore les frères Warner? Qui sinon Fritz Lang et Billy Wilder, Audrey Hepburn, Cary Grant? Ce sont leurs films, leurs voix, leurs fantômes qu'on entend dans ces discours vibrants un peu trop souvent, c'est vrai en ce moment, mais quand on parle de cinéma, la réalité, c'est qu'on ne parle que de ça.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un écrivain qui connaît bien la culture américaine, autant sa littérature d'ailleurs que sa musique et son cinéma. D'Alabama Song, qui lui valait le prix Goncourt il y a 10 ans, à Nina Simone, roman. Il revient demain avec un nouveau roman, donc Dans les Westerns, variation tragique sur une histoire d'amour entre deux acteurs dans l'Hollywood de l'âge d'or. Bonjour Gilles Leroy.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, Gilles?
Je sais pas, ça fait très très peur, en tout cas c'est glaçant. Mon sentiment est un peu plus complexe parce que j'y étais l'année dernière et j'avais assisté à des choses, notamment dans le Tennessee, à Nashville, qui auguraient un peu de ce qui se passe. J'ai été qu'à moitié étonné en réalité des résultats de l'élection. Et j'ai assisté là-bas vraiment à des choses que j'avais pas vues depuis fort longtemps et qui étaient tout bêtement des scènes de racisme ordinaire dans l'aéroport de Nashville, par exemple. Entre des blancs et des noirs et ça m'avait vraiment beaucoup alerté. Il y avait une ambiance comme ça assez détestable depuis 2 ans en réalité. Et on en a j'ai l'impression là le résultat. Quoi.
Alors ce qui est intéressant c'est qu'Hollywood réagit toujours à cela et là le coup de projecteur qui est mis sur Hollywood comme bastion de résistance face au pouvoir, c'est assez intéressant. Ce positionnement anti-Trump, il vous surprend vous?
Non, c'est un logiciel habituel chez les artistes d'Hollywood. C'est pas surprenant. Et j'aimerais qu'on les soutienne nous-mêmes un peu plus. Enfin, que les artistes qu'on crée quelque chose d'un peu plus international, d'un peu plus mondial. J'ai un peu peur du retour de bâton pour eux en fait, parce que Trump, il peut aller très très loin. Vous savez, c'est on a l'air d'être parti dans quelque chose d'inconnu comme ça. Et Hollywood est puissant. Certes, mais enfin bon, j'ai toujours peur de ce moment où d'un retour de la chasse aux sorcières, par exemple, qui est très présente dans mon roman, mais j'ai l'impression qu'on est à peu près dans une période équivalente, là, en ce moment.
Pourquoi je vous pose la question, Gilles Leroy? Parce que dans votre livre, vous nous parlez d'un tout autre Hollywood, celui des années 50, qui, je vous cite, fonctionne tout autrement. Les studios se couchaient devant le pouvoir politique et les dévots, allaient au-devant des désirs de la censure avec un zèle sincère, parce qu'au fond, ils partageaient les mêmes valeurs de ségrégation et d'inégalité et les mêmes phobies puritaines. De quel Hollywood est-ce que vous nous parlez, là?
De cet Hollywood, oui, des années 50, qui est en plein McCarthyisme, cet Hollywood où se multiplient les commissions de censure. Il faut savoir qu'un nombre de films incalculable a été xé par ce qu'on appelait les ligues de décence. Et donc, tout le monde vit dans cette terreur des ligues de décence, aussi bien les producteurs que les acteurs qui se sentent surveillés. Parfois, ils sont réellement espionnés par les studios, par la police des mœurs, enfin, le FBI.
Et qui collaboraient aussi, un peu.
Ben oui, c'est ça, c'est qu'à un moment où tout le monde collabore. Et c'est vrai qu'on sent dans les années 50 une sorte de collusion entre une certaine presse, américaine, le pouvoir et les bigotes, enfin les fanatiques religieux.
Qu'est-ce qu'on avait le droit de montrer ou de ne pas montrer, de dire ou de ne pas dire à l'époque, au cinéma?
Ça pouvait aller très loin. Il y avait des endroits des États-Unis où on pouvait pas accepter que deux personnes s'embrassent à l'écran, tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous X-ait un film pour ça. Je sais pas si aujourd'hui on sait très bien ce que c'est que X-er. Ça voulait dire vraiment faire des croix, des X sur la pellicule. C'est-à-dire que le film était immontrable.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, l'homosexualité, par exemple, il s'agit d'homosexualité dans votre livre, oui, elle est pas du tout absente des films de cette époque-là. Loin de là, des westerns notamment. À quel film, à quelle scène est-ce que vous pensez, par exemple?
Elle est toujours métaphorisée, on va dire. Alors, j'aime pas le mot refoulé. Non, elle est vraiment tenue à distance, comme ça. Et en même temps, ça travaille. Tout le western est travaillé par ça. Ces affrontements, parfois survirils, ont toujours des failles, des failles en eux. Il y a toujours des regards qui échappent.
Par exemple.
Je pense à un film comme Duel au soleil, par exemple, où parfois on se demande exactement quel est le rôle de l'héroïne, non mais c'est vrai, parfois on se demande quel est le rôle précis de la jeune femme dans les scénarios de western, si elle est pas là comme une sorte d'objet transactionnel, de trait d'union entre le vrai désir à l'écran qui serait, enfin pas à l'écran, mais le vrai désir des scénaristes qui serait le désir entre les deux cowboys, les deux
Et
wranglers.
Et comment ça passait à travers les mailles de la censure?
Ça passait parce que certaines personnes le voyaient et d'autres non. On a l'exemple fameux de Ben-Hur où Gore Vidal avait instillé des éléments vraiment typiquement de la culture homosexuelle de ces années-là. Et les acteurs s'en sont pas rendus compte. Et Charlton Heston, lorsqu'il s'en est aperçu, est rentré dans une colère mais noire d'avoir été manipulé comme ça et de passer pour un type qui pourrait éventuellement être séduit par par un romain, quoi.
Quelle horreur. Quelle horreur. Dans les westerns, Gilles Leroy, votre nouveau livre raconte l'histoire de deux acteurs coqueluches de Hollywood. Leur histoire d'amour et leur homosexualité sont les secrets de Polichinelle pour tout le milieu du cinéma. Et ces personnages de papier, je me pose la question, même si j'en connais un peu la réponse, qui vous les a inspiré?
J'allais dire, ils sont plusieurs, mais principalement, le désir de ce livre m'est venu il y a très longtemps. J'ai une sorte de passion pour Cary Grant, qui à mon avis est le plus grand, et pas seulement en taille, mais vraiment le plus grand acteur. Et j'ai été surpris un jour, j'étais jeune homme, et je tombe sur des photos de lui avec un jeune homme blond, avec qui il a l'air de partager sa maison à Santa Monica. Et vraiment leur relation, enfin leur proximité, mais même physique, m'a étonné, quoi. Et cette intimité qu'on voit sur les photos, et je me suis dit, c'est quand même étonnant, comment est-ce possible? Alors, c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie à l'époque à propos de l'homosexualité, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, mais disons que on ne pense pas à mal, pour dire les choses, ouais. Mais ce qui est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les roommates, c'est-à-dire la tradition des colocataires, Hollywood, c'était très répandu. Les studios, quand ils débauchaient des jeunes acteurs du théâtre, souvent du théâtre de Broadway, qu'ils faisaient venir sur la côte californienne, ils trouvaient les loger dans, ils les regroupaient dans des appartements. On sait comme ça que Brando à ses tout débuts a cohabité avec Tony Curtis et que ça s'est très 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 mal passé entre les deux. Que Tony Curtis a trouvé que Brando était invivable, il est pas le seul. Et donc il y avait une tradition qui fait que lorsque ce Cary Grant a partagé une maison avec Randolph Scott, je crois que dans un premier temps les gens n'y ont pas vu malice, sauf les initiés.
Vous
les
citez
initiés.
Brando, Gilles Leroy, vous citez Cary Grant, on pense aussi à Rock Hudson, à Montgomery Clift, sans parler de James Dean. On pense tout de suite à tous ces fantasmes en fait d'expérience homosexuelle pour le public aussi. C'est un fantasme qui alimente, qui contribue le mythe de l'acteur. Pourquoi, à votre avis, est-ce que ça continue même aujourd'hui de faire fantasmer le public?
Je sais pas, je pense que la sexualité en général fait fantasmer, c'est peut-être sa fonction première.
Parce qu'elle est cachée en fait.
Oui, c'est l'interdit, c'est ce qui est caché qui fait fantasmer. Mais quand même, je vois une différence, si vous voulez, entre ce que l'on a pu soupçonner d'homosexualité et puis ceux qui se sont revendiqués comme tels, enfin qui ont vraiment vécu des vies homosexuelles, ce qui ne fut pas le cas de Cary Grant par exemple, qui s'est marié, ainsi que son roommate Randolph Scott. Ils ont eu des vies hétérosexuelles, on va dire, mais vous avez des hommes comme Montgomery Clift qui ont vraiment vécu des vies homosexuelles. Donc je fais une différence quand même entre les uns et les autres. Et mon héros, Bob Lockhart, lui, tient à assumer ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la rupture aura lieu avec son amant, Paul Young, qui lui est un héritier, un vrai héritier WASP, quoi, de l'Amérique protestante, capitaliste. Il a grandi dans la viande. Enfin, ses parents sont courtiers en bétail. Et donc c'est là on est vraiment dans un affrontement entre quelqu'un qui veut vivre au grand jour et quelqu'un qui veut rester dans l'ombre.
Celle qui s'assume dans cette émission, Gilles Leroy, vous la connaissez sans doute, c'est La Culture et son actualité parfois gay, souvent bi, sexy, toujours touchy. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 1er février? La folle journée mène la danse. Le festival de musique classique de la ville de Nantes ouvre le bal de sa 23e édition dès ce soir. Et pour 5 jours, sur le thème du rythme des peuples, l'événement célèbre le lien entre la musique et la danse et met à l'honneur polka, pavane, chaconne, valse et autres ballets. Au programme de ces festivités entraînantes, 300 concerts, une collaboration inédite avec le Centre chorégraphique de Nantes, une belle ouverture vers le jazz et la world music et même des chanteurs d'oiseaux, ça a guinché.
Moi j'ai choisi d'écrire ça parce que ça me convenait, quoi. C'était ce que j'avais envie d'écrire.
Mauvaise nouvelle, Dany Saumon, la grande nouvelliste souvent surnommée petite sœur française de Raymond Carver, s'est éteinte hier, elle avait 89 ans, chroniqueuse minutieuse de la vie quotidienne, auteur de plus de 300 nouvelles, souvent cruelles, réunies en une vingtaine d'ouvrages, la délicate Normande fut couverte de prix littéraires tout au long d'une carrière qui commence en 1961. Elle fut notamment lauréate du Goncourt de la Nouvelle en 81 et restera aussi comme la traductrice de J.D. Salinger, John Fowles ou V.S. Naipaul. En 2002, elle écrivait « C'est rien, ça va passer ». On la contredira, c'est sûr, elle restera.
Cette fois, ça y est, accroche-toi bien. Surtout, ne lâche pas ma main.
L'amour ne devrait jamais.
Non. Non et toujours non, Léo ne pouvait pas s'en sortir. C'était écrit et maintenant c'est dit pour mettre fin à 20 ans de polémique sur la question de savoir si Leonardo DiCaprio alias Jack dans Titanic aurait pu survivre aux eaux glacées de l'Atlantique en rejoignant Kate Winslet aka Rose sur sa planche de bois après le naufrage du paquebot. James Cameron, le réalisateur du film, a tranché. Regardez, c'est très très simple, dit-il. Vous lisez la page 147 du script et ça dit Jack descend du panneau de bois et donne sa place à Rose pour qu'elle puisse survivre. C'est aussi simple que ça, c'est tragique. Mercredi d'Amérique, frisson en panoramique, car aujourd'hui dans les salles obscures, on prend une perme pour passer un jour dans la vie de Billy Lynn, le drame puissant sur les vétérans d'Irak signé Ang Lee. On s'illumine grâce à Moonlight, le portrait sensible d'un jeune garçon dans le ghetto noir de Miami, livré par Barry Jenkins et déjà récompensé d'un Golden Globe. Et sinon, on nargue le danger avec Gimme Danger, le doc rock'n'roll et furieux sur les Stooges d'Iggy Pop, griffé Jim Jarmusch. Oh yeah! Gilles Leroy, invité de Boomerang ce matin. Votre nouveau roman, Gilles, sort demain et s'appelle Dans les Westerns. Et on y retrouve, on l'a compris, votre passion pour les États-Unis, ce pays que vous ne cessez de convoquer. Je pense évidemment à Alabama Song, Goncourt il y a 10 ans, Zola Jackson, Nina Simone, Roman, ce tropisme américain. Je me suis demandé comment il est né. De votre père, je crois.
De mon père, qui avait une vraie fascination pour les États-Unis. Et puis aussi du cinéma. Tout simplement, c'est par le cinéma que je suis tombé amoureux de l'Amérique. Plus tard, par la littérature, bien sûr, par les romans, par Faulkner, Carson McCullers. Mais au départ, quand même, le lien culturel que j'ai avec les États-Unis, il est cinématographique.
Quelles images précisément, quels films?
Oh, je sais pas, on allait au cinéma tous les samedis et tous les dimanches quand j'étais petit. Et on a vu tellement de films que je pourrais pas en dire un plutôt qu'un autre. Vous me prenez au dépourvu.
Et alors cet amour de l'Amérique par le prisme d'image, justement, c'est au risque du cliché, Gilles Leroy, du cliché sur l'Amérique.
Mais moi, je déteste pas les clichés. C'est intéressant de travailler sur les clichés.
Et les fantasmes, d'ailleurs.
Ouais. Oui, parce que ça correspond à des fantasmes, souvent. Mais oui, moi, en tant que romancier, en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant le cliché imposé par le cinéma. Je m'en amuse en tout cas dans ce roman. Je crois vous parliez de la scène finale de Titanic et j'y fais écho dans le roman parce que mon héros Bob Lockhart a un grand projet dans sa vie qui est de tenir le rôle de sa vie. Et ce rôle, c'est Martin Eden, le héros de Jack London, qui finit comme DiCaprio dans Titanic. C'est vrai qu'il finit à... Sauf que lui, c'est volontaire. Il se suicide en s'enfonçant dans l'eau. Et donc, voilà, il y a une sorte de mise en abîme de l'histoire du cinéma, si vous voulez, puisque ce film que j'invente, hein, qui n'a jamais existé, ce film, donc, d'après la vie de Martin Eden, d'après le roman Martin Eden, fait écho à celui de...
Ouais, tant qu'on y est, vous pouvez répondre à la question que tout le monde se pose, Gilles Leroy. Il y avait de la place ou il n'y avait pas de place sur le radeau?
Moi, je trouve qu'il y avait de la place.
Moi, je trouve qu'il y avait de la place aussi.
Franchement.
Je suis désolé.
Ouais. Allez, ouais.
Bah ouais, il y avait de la place. Bon, votre rencontre avec la littérature américaine, Gilles, elle s'est faite quand? Et surtout avec quels auteurs?
Ça se fait quand je suis tout petit avec Hemingway, je crois. Et ça se poursuit avec les Fitzgerald. Je dis bien les parce que je suis très vite tombé sur le roman de Zelda.
Vous avez écrit sur Zelda.
J'ai écrit sur elle, oui, mais c'est pour ça. Et puis le monument, bien sûr, c'est la rencontre, le choc qu'a été William Faulkner dans ma vie. Quoi.
Quel voilà. Choc est-ce que ça a été précisément?
C'est ce moment où vous savez que vous êtes ailleurs, quoi. Vous avez atteint une autre dimension de l'être, de la pensée. C'est pas assez. Ça me transporte, moi, la littérature.
Et enfin, quel texte précisément? Parce que c'est quelque chose, vous savez, qu'on partage, tous les deux.
C'est vrai,
ce choc. La lecture du Bruit et la Fureur, pour moi.
Alors, moi, ça n'a pas été le Bruit et la Fureur, ça a été Lumière d'août. Lumière d'août, c'est... Je peux le relire à l'infini, quoi. Je vois cette fille sur cette route qui arrive, qui est enceinte de ce type qui n'a pas voulu reconnaître l'enfant. En plus, ça évoque des choses dans ma propre histoire. Enfin, non, Light in August, c'est un sommet pour moi.
Et ça a coïncidé avec votre désir de devenir écrivain, d'écrire?
Je crois que ça y a en tout cas beaucoup, beaucoup participé. J'avais ça depuis un petit bout de temps, depuis mes 10, 11 ans. Le premier vrai choc esthétique que j'ai eu, c'était à 11 ans, quand j'ai lu Le Rouge et le Noir, alors que ma mère m'avait dit, écoute, c'est pas franchement, t'as pas l'âge, quoi, pour lire ça. Vous dites ça à un gosse, bien sûr, après, ce qu'il fait, c'est de l'ouvrir, le livre. Et j'avais eu ce vrai choc-là, de me dire, ah, mais oui, mais là, je sais pas si la réalité est dans la vie, mais en tout cas, la vérité, elle est dans les romans. Et ça, je n'en démords pas, quoi.
Qu'est-ce qui avait été si difficile, Gilles Leroy, à assumer, dans le métier d'écrivain? Dans le désir d'écrire? Aussi.
Quand j'étais gamin, j'osais pas dire que je voulais être écrivain. D'abord parce que je n'ai pas d'un milieu où c'était possible. Je veux dire, j'ai un milieu super modeste d'ouvriers, de petits employés, et donc je m'imaginais pas à 12 ans dire comme ça entre la poire et le fromage. Vous savez quoi, j'ai envie d'être écrivain. On m'aurait regardé d'un drôle d'air, je crois. J'avais honte, mais vous savez que parfois j'ai encore honte. C'est pas très correct d'être écrivain. Il y a un côté qui reste, enfin, à mes yeux, dans l'idée que je m'en fais, un peu insurrectionnel, un peu... c'est pas correct.
Vous pensez que c'est encore un fantasme?
Ça le sera toujours, puisque le livre rêvé, il est toujours à accomplir, on court après. Enfin, moi, je cours après.
On va reparler, Gilles Leroy, de littérature, de cinéma, de désir, de fantasme, juste après un morceau que vous souhaitiez écouter aujourd'hui. Stand By Me, vous restez avec moi là, je vous ai dégoûté. Une sublime version de ce standard de 1961 par Benny King, signé ici Otis Redding, dans l'album Pain In My Heart 1964, France Inter, Gilles Leroy, Boomerang.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, darling, won't you stand by me? If the sky you look upon another should tumble and fall, all of the mountain may crumble to the sea, I won't cry. No, 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 I won't. No tears, just as long as you stand by me.
Il est Goncourt, de la pointe de ses cheveux blancs ondulés parfaitement à celle de ses ongles coupés propres et courts, sans parler de son calme, de son autorité, de sa carrure. Goncourt où il ne siège pas, mais dont il a été le lauréat, ça se voit, à son sourire consensus, à son allure grand public, à ses manières grand seigneur, écharpe noire d'homme de lettres ténébreux, chaussures d'alpiniste romantique, quelque part entre Richard Gere et Chateaubriand. Gilles Leroy, invité de Boomerang ce matin pour son nouveau roman dans les westerns, sombre histoire d'amour, on le disait, entre deux acteurs dans le Hollywood des années 50, une histoire qui nous est racontée par l'entourage du couple quelques 40 ans après leur rupture sous forme d'entretien. Et c'est ce qui fait en fait la spécificité de ce roman, hein, toutes ces voix qui se succèdent, qui se complètent, qui se contredisent parfois. Pourquoi est-ce que cette histoire, il fallait la raconter comme ça, dans une sorte de polyphonie ?
J'avais envie de retrouver la force du discours amoureux. Le côté impérieux et voire insurrectionnel de l'amour et quand je dis l'amour, c'est l'amour et l'amitié, parce que c'est aussi un roman d'amitié. Parmi les trois personnes qui parlent de Bob, il y a son ancien amant Paul Young, qui est devenu ce sénateur républicain archi-conservateur, mais il y a surtout Joan Ellis, l'ancienne enfant star qui a été prise de Bob lorsqu'ils se sont rencontrés à New York quand ils avaient 17-18 ans. Et puis il y a Lenny, pour qui j'ai une tendresse particulière, Lenny Lieberman, qui est un ancien élève de l'Actor Studio qui se sentait mauvais acteur, et du coup il s'est reconverti en agent, et il est l'agent de Bob, et c'est vraiment le frère, c'est des relations qui moi comptent beaucoup dans ma vie.
Mais vous justement, vous êtes où, Gilles Leroy ? Quelle voix ?
Moi, je suis partout, je crois, dans toutes les voies. Et pas forcément là où on m'attend le plus. Je crois que je suis beaucoup dans la voie de Lenny Lieberman, dans la voie de cet homme qui, à un moment, explique son trouble quand il avait 20 ans, parce qu'il réalise que son meilleur copain, donc il sort pas beaucoup avec les filles, hein, et apparemment c'est pas son truc, les filles. Donc Lenny, il est embarrassé parce que c'est un petit gars du Bronx, il a été vu dans un garage, enfin bon, il est un peu rough comme ça, hein, et il sait pas trop quoi penser, mais il lui vient à l'esprit que peut-être il aurait lui-même, voilà, une sorte de tentation homosexuelle. Puis non, en fait non, il est juste, c'est juste son meilleur copain, c'est une relation fraternelle.
Vous voudriez dire par là que cette veine de roman américain que vous tenez, hein, depuis longtemps, différente d'une veine très auto-fictionnelle chez vous, dans les romans américains, vous voudriez dire, Gilles Leroy, que vous ne vous cachez pas tant que ça, en fin de compte. C'est pas une façon de s'effacer.
Je pense que c'est une autre façon de se montrer, mais je crois que je me lâche beaucoup plus, peut-être, dans ces romans américain. Je sais pas pourquoi. Moi, je crois beaucoup que la fiction est une très bonne façon de dire la vérité et de révéler ce qu'on ne peut pas forcément dire derrière un jeu autobiographique qui est toujours parasité. Hein. On est toujours pris avec l'image qu'on a de soi, qu'on veut donner de soi et tout. Tandis que là, je suis loin d'être Joan Ellis, cet enfant star. Je suis loin d'être Lenny Lieberman. Encore plus loin d'être Paul Young, ce sénateur.
Alors, la plus grande vérité qu'un livre ait fait éclater chez vous, ce serait quoi ?
Plus grande vérité ? Je crois que j'ai rien dit. La seule chose qui pourrait me rester encore à dire et que je n'aurais pas dite, qui éclairerait peut-être le projet du livre, c'est que quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescent, j'ai failli devenir comédien. Et j'en ai jamais parlé. Et je ne sais pas si je fais bien d'en parler d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que ça a été, il y avait un plaisir pour moi quand je parlais de l'Actor Studio et de cette ambiance très particulière des cours d'art dramatique, parce que je replongeais un peu là-dedans. Ça a duré très peu dans ma vie, parce que j'ai commencé ça à 15 ans, et puis à 18 ans, j'ai présenté le conservatoire que j'ai raté d'une voix et tout, ça m'a dégoûté. Je me sentais pas bon. Je me sentais pas un bon acteur. Et comme Lenny Lieberman, quand on vient d'un milieu, c'est ce qu'il dit le fils de garagiste Lenny, quand on vient d'un milieu modeste, si on se lance dans l'art avec un grand A, il faut qu'on soit bon, on peut pas être médiocre.
C'est peut-être pour ça, cela dit, Gilles Leroy, que vous avez choisi de terminer cette émission par la voix d'un acteur, ou plutôt d'une actrice.
Oui.
La voix de Marilyn.
Oui, il est question de deux champions, là aussi, dans cette lettre. C'est une lettre que Marilyn écrit en mars 61. Elle est en convalescence dans un centre presbytérien de l'Université Columbia, après avoir été internée contre son gré dans une sinistre clinique à New York. Elle évoque au début le directeur de l'hôpital, et puis très vite elle parle du Noël où elle a retrouvé Joe DiMaggio. Et Joe DiMaggio, c'est son ancien mari, le champion de baseball. Et ils ont été mariés 7 ans, enfin non, très peu de temps, 7 mois, et ils ont divorcé très vite. Et 7 ans plus tard, ils se réconcilient. Et Joe est important parce que c'est lui qui va la sortir de la clinique psychiatrique. Donc je vous lis cette lettre. Ce matin de mars 1961, le directeur de l'hôpital, qui ressemble à un principal de collège, m'a interrogé en se prenant pour un analyste. Il m'a dit que j'étais une fille très, très malade et que j'étais comme ça depuis des années. Cet homme méprise les patients. Il m'a demandé comment je pouvais bien travailler dans un état aussi dépressif. Il voulait savoir si cela interférait sur mon jeu. C'était pas vraiment une question, il avait déjà décrété que oui. Aussi, je lui ai rétorqué que peut-être Greta Garbo, peut-être Charlie Chaplin et peut-être même Ingrid Bergman, d'autres que moi, avaient dû travailler en pleine dépression. J'ai dit, autant demander à un joueur comme DiMaggio s'il peut frapper une balle quand il est déprimé, complètement ridicule. À propos de Joe, j'ai de bonnes nouvelles en quelque sorte, puisque je crois que j'ai été utile à quelque chose. Enfin, c'est ce qu'il affirme. Joe dit que je lui ai sauvé la vie en l'adressant à un psychothérapeute que le docteur Chris juge excellent. Joe dit qu'il s'est repris en main après notre divorce, mais il reconnaît que s'il avait été à ma place, il aurait lui aussi demandé le divorce. Pour Noël, il m'a envoyé un champ entier de poinsettias. J'ai demandé de qui venaient les fleurs, tellement j'étais surprise. Mon amie Pat Newcomb était là quand on me les a apportées. Elle m'a dit, je sais pas trop, la carte dit juste « Meilleurs vœux, Joe ». Je lui ai répondu, il n'y a qu'un seul et unique Joe. Comme c'était le soir de Noël, je l'ai appelé et je lui ai demandé pourquoi il m'avait envoyé les fleurs. Il m'a dit,
d'abord, j'ai pensé que tu me téléphonerais pour me remercier. Ensuite, qui d'autre pourrait bien t'en envoyer? Tu n'as que moi au monde.
Il a ajouté,
je le sais, j'étais marié avec toi et j'étais pas envahi par la belle famille.
Bref, il m'a proposé de sortir prendre un verre avec lui, un de ces quatre. Je lui ai fait remarquer qu'il ne buvait jamais. Il m'a dit que maintenant, il buvait de temps en temps. Alors, je lui ai dit que j'étais d'accord, mais à condition de se retrouver dans un endroit très, très, très sombre. Il m'a demandé ce que je faisais pour Noël. Je lui ai dit, rien de spécial, je serai avec une amie. Il m'a demandé s'il pouvait passer. J'étais si déprimé, tout le temps au bord des larmes, mais quand même, j'étais heureuse qu'il vienne. Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là, docteur, parce que vous avez sûrement d'autres choses à faire. Merci de m'avoir écouté un moment. Signé Marilyn M.
On vous écouterait longtemps. Merci beaucoup, Gilles Leroy, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Dans les Westerns sort demain en librairie. C'était une plongée dans la face cachée de Hollywood. C'est presque du cinéma, ça se dévore en un rien de temps. Je précise aussi que vous serez au Festival des Écrivains du Sud à Aix-en-Provence les 11 et 12 mars, ainsi qu'à Laval pour le Festival du Premier Roman les 29 et 30 avril.